Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. La presse et Ulaval Nouvelles. Au programme, à qui appartiennent les paysages? Et une molécule contre la malaria dans le petit thé du Labrador. Bonne écoute.
À qui appartiennent les paysages? Un texte de Stéphanie Bérubé, paru le 4 juin 2023 dans La Presse. Les vacances arrivent. Enfin! C'est le moment de faire le plein de nature, loin du travail, du quotidien. La grande évasion, au milieu d'un paysage parfait. À condition de le trouver. L'accès au paysage est-il un droit inaliénable ou un privilège réservé aux propriétaires et locataires assez riches pour avoir devant les yeux un panorama splendide? À qui n'est pourtant pas le village le plus visité de la province, car presque au bout de la route 138, certaines des maisons qui ont accès à la plage sont désormais des propriétés de résidents temporaires, raconte Christina Gauthier-Landry, autrice du recueil de poésie et « Arrivée au bout, nous prendrons racine ». La jeune écrivaine est originaire de La Place et assez vieille pour avoir connu Natashquan avant l'arrivée de la 138. La route a changé beaucoup de choses. « Les gens qui vivent près de l'eau ont les moyens, » dit-elle. « Les maisons plus modestes sont dans les rues reculées. »« Est-ce que le paysage appartient à tout le monde? » répète-t-elle à voix haute. « Dans l'absolu, oui. Dans les faits, non. » Partout au Québec, l'accès au paysage est parfois l'apanage de certains privilégiés. Si vous vous promenez le long du lac Memphrémagog, vous allez essentiellement voir des haies de thuya, relate le professeur Sylvain Paquette à l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage de l'Université de Montréal. Oui, une plage a été aménagée, dit-il, mais si on fait le tour du lac, on trouvera surtout des résidences privées. L'accès au paysage peut être compliqué en milieu rural. Si on n'est pas propriétaire d'un chalet, qu'est-ce qu'on fait? Si on n'a pas les moyens de se payer un hébergement au manoir Richelieu, dans Charlevoix, qu'est-ce qu'on fait? Demande le professeur, qui précise que l'accès au lac s'est beaucoup privatisé dans la province et que parfois, cela coupe aussi la vue du paysage. Au Québec, il n'y a aucune législation quant à l'accès à la nature ou à un morceau de campagne en dehors des parcs nationaux ou des parcs régionaux, dit Sylvain Paquette. Et même, dit-il, les frais d'hébergement dans les parcs ont beaucoup augmenté. Comment alors s'assurer d'un meilleur partage de ce que la nature offre de plus beau? D'autres territoires ont opté pour une stratégie d'accès différente, explique cet expert qui est aussi titulaire de la chaire en paysage et environnement de l'Université de Montréal. Il cite en exemple la loi littorale française et, plus largement, l'Europe du Nord, où un droit coutumier permet à tous d'avoir accès à des terres privées. Si on y fait des activités qui ne sont pas dommageables, précise-t-il. Si on veut aller marcher, cueillir des champignons, même faire un feu. On a accès à la nature, peu importe son statut, public ou privé. c'est une option qui mérite d'être regardée, voire adaptée au Québec, dit-il. L'accès au beau et au paysage est bel et bien un droit universel, croit Anne-Marie Asselin, directrice générale de l'Organisation Bleue, un OBNL québécois, qui fait des actions d'impact environnemental, notamment en faisant du nettoyage de berges. Le paysage est non seulement un patrimoine dont la responsabilité devrait être sociétale, mais ça devrait aussi être libre d'accès et libre de droit, dit Anne-Marie Asselin, qui a particulièrement à cœur la protection, la valorisation et l'accès des berges du fleuve. Je compare le fleuve à l'aorte du Québec, dit-elle. Ça parcourt notre territoire. C'est ce qui nous permet de nous nourrir, d'avoir accès à une espèce de mer intérieure. Nous sommes très liés au fleuve, les Québécois. Plus de 80% de la population habite à proximité du Saint-Laurent. Et maintenant, de revendiquer ces berges est un peu étrange, en ce sens où ça devrait être tout naturel, exprime Anne-Marie Asselin. Or, chaque municipalité peut gérer son littoral. Heureusement, plusieurs ont à cœur cette préoccupation. À Québec, la promenade Champlain longe le fleuve. Rimouski a aussi aménagé ses rives, cite-t-elle en exemple. Vous écoutez « À qui appartiennent les paysages ?» un texte de Stéphanie Bérubé, paru le 4 juin 2023 dans la presse. On voit qu'il y a une mouvance vers la volonté de redonner le littoral aux Québécois, se réjouit cette biologiste marine. Les réjouissances coupent toutefois court lorsque ces pensées voguent vers Montréal. Montréal est une île. On l'oublie tellement souvent. On a accès à peut-être 10 % des côtes. Tout le reste est privatisé, dont le port de Montréal. On n'a pas accès au littoral. Ça devient un cheval de bataille gigantesque, mais important, selon Anne-Marie Asselin. Si vous voulez admirer le Saint-Laurent, vous pouvez aller à la Malbaie, faire une pause lecture. On a la bibliothèque municipale qui a la meilleure vue de tout le Québec à la Malbaie. Elle donne directement sur le fleuve, prétend Amélie Adam, chargée de projets en environnement à la réserve de la biosphère de Charlevoix. Les beautés naturelles de cette région ne sont plus à vanter depuis belle lurette. Et depuis un bon moment aussi, on se préoccupe de leur conservation, dans un coin de pays où tout le monde s'approprierait bien un petit bout de beauté. Déjà, à la fin des années 1990, les schémas d'aménagement de la MRC de Charlevoix et Charlevoix-Est indiquaient que les paysages commençaient à se dégrader et que des actions devaient être prises, énonce Amélie Adam. C'est une préoccupation pour l'ensemble de la population. Dans Charlevoix, ça fait longtemps que les paysages jouent un rôle social, économique et culturel, dit Amélie Adam. Selon elle, malgré une privatisation certaine, la population et les visiteurs a encore accès aux paysages et plusieurs actions ont été prises pour s'assurer de leur pérennité, dont la mise en place de l'entente sur les paysages de la capitale nationale. Cette entente de 3 ans, renouvelable en 2025, veut notamment mettre en valeur et protéger les panoramas grâce à des projets dans 6 MRC de la région, dont les 2 qui couvrent Charlevoix. Cela mènera à des projets comme l'aménagement du parc aux éboulements, avec vue sur le fleuve, l'installation de photos sur le bord de la route 138 à Petite-Rivière-Saint-François et un belvédère à Baie-Sainte-Catherine qui fait la part belle au fjord. Surtout, explique Amélie Adam, cette nouvelle façon de procéder place la population au cœur du processus de réflexion et d'aménagement des paysages charlevoisiens. Des gens et des paysages. Quand l'accès aux paysages charlevoisiens est en péril, la population se mobilise rapidement, constate Amélie Adam, de la réserve de la biosphère de Charlevoix. C'est vrai aussi pour d'autres enjeux dans la région, car la population ici est fortement mobilisée, dit-elle. Il reste que, partout, la mobilisation et l'intérêt sont souvent mus par une menace. Et dans le cas de l'accès, la protection et la valorisation du paysage, c'est souvent un projet de développement qui est la force motrice de la participation citoyenne. Ça fait longtemps que cette réflexion que le développement doit prendre en considération le paysage existe, précise Amélie Adam. Le professeur Sylvain Paquette le confirme, l'implication citoyenne est essentielle. Co-gestion, co-développement, co-design, co-construction. Le « co » est devenu difficile à éviter, car la notion de paysage a évolué vers une plus grande démocratisation. Il faut penser sur un plan collectif, dit-il. Ça ne mènera probablement pas à un consensus, mais à des visions qui pourront ensuite guider les actions. Le paysage, ça n'est pas d'imposer une vision, mais d'être dans le dialogue, selon Sylvain Paquette, titulaire de la chaire en paysage et environnement de l'Université de Montréal. Il ne faudrait pas mettre le paysage sous une cloche de verre. Ça serait une erreur, poursuit le professeur Sylvain Paquette, car on en exclurait les populations humaines. Il ne faut pas juste parler de protection, dit-il. Il faut parler de mise en valeur et de développement. Ça n'est pas parce qu'on parle de paysage qu'on est contre le développement. L'équilibre entre le développement et la protection n'est pas toujours facile à atteindre. Que l'on parle de barrage, de pêche, d'exploitation forestière ou minière, c'est toujours la balance entre le paysage, la nature et l'économie. Il y a des humains qui habitent dans ce paysage-là, dit l'autrice Christina Gauthier-Landry, alors que l'on évoque cette île où elle a étudié. La luminerie Alouette est désormais imbriquée dans le paysage, tellement qu'on ne la voit plus. Alouette a créé un nouveau paysage sorti de la science-fiction, dit-elle. De l'importance de protéger le fleuve. Nathalie Gravel, professeure au département de géographie de l'Université Laval, déplore que la privatisation donne lieu à des catastrophes pas naturelles du tout et qui font partie du paysage, malgré lui. Elle donne en exemple des tours de logements qui ont poussé devant la marina de Cap-Rouge à Québec, dans des zones en pente qui sont dommageables pour le fleuve, car il y a risque pour l'érosion et pour le paysage. Pour contrer ce genre de projet, Nathalie Gravel appuie la reconnaissance du Saint-Laurent comme personnalité juridique, car selon elle, une protection du fleuve serait bonne pour l'ensemble de l'écosystème riverain, dont les berges. Déjà, une quinzaine de municipalités appuient ce projet de reconnaissance juridique. La municipalité qui signe l'appui devra ensuite surveiller les autorisations qu'elle donne, dit Nathalie Gravel. Vous écoutez « À qui appartiennent les paysages ?» Un texte de Stéphanie Bérubé, paru le 4 juin 2023 dans la presse. La rivière Magpie, sur la côte nord, a cette reconnaissance depuis 2021. La rivière Magpie situé sur la côte nord, a reçu en 2021 le statut de personnalité juridique, une déclaration commune d'élus régionaux, de la MRC de Mangani notamment, et d'un regroupement d'organismes mené par l'Alliance Mutéché-Kochipu. Si elle devait être touchée par un lotissement qui porterait atteinte à son intégrité, elle aurait ainsi un outil juridique comparable à ceux offerts à tout individu devant les tribunaux à sa portée. Québec solidaire a déposé l'année dernière un projet de loi afin d'offrir la même protection au fleuve Saint-Laurent. Le projet est porté depuis 2018 par l'Observatoire des droits de la nature. Cette forme de reconnaissance, qui donne accès plus simplement à des recours, ne protégerait pas en soi les cours d'eau de lotissements potentiels. À preuve, le Parti québécois a déposé en février dernier une motion à l'Assemblée nationale qui demandait la reconnaissance du caractère exceptionnel de la MAGPI et elle a été rejetée. La motion demandait aussi que le gouvernement et Hydro-Québec s'engagent à ne pas construire de nouveaux barrages sur cette rivière. Les berges du fleuve ne seraient pas protégées. Le panorama, non plus. Mais la voie maritime, oui, avec tout ce que cela implique. On pourrait se demander si c'est dans l'intérêt du fleuve de défricher pour construire de gros édifices qui s'intègrent mal dans le paysage, demande Nathalie Gravel. Clairement, la réponse serait non. La loi donne un cadre, explique l'avocat américain Grant Wilson, directeur de l'Earth Law Center, une organisation internationale sans but lucratif établie au Colorado qui défend le droit de la nature. Nous croyons que le système judiciaire devrait aussi représenter la nature, explique-t-il. À preuve, ce qui se fait en Amérique latine. La protection de la nature y est un mouvement de masse, précise Grant Wilson. Ça n'est pas adopté universellement, mais c'est en route, et je ne serais pas surpris si, d'ici 10 ans, il y avait un traité des droits de la nature entre les pays d'Amérique latine. Le Mexique offre aussi déjà une protection à la nature grâce à un amendement constitutionnel. Plusieurs États protègent la nature et son accès, précise l'avocat américain. Or, on est au début de l'implantation de ces lois, et cela soulève assurément des questions de propriété et de façon d'appliquer la loi. C'est particulièrement un défi auprès de l'industrie touristique pour laquelle l'accès au paysage et à la nature a une immense valeur. Malheureusement, concède Grant Wilson, le système légal est rempli de contradictions. Surtout que de reconnaître des droits à la nature entre complètement en opposition avec la notion que si vous possédez un terrain ou un hôtel en bord de mer, vous êtes propriétaire de la nature qui vient avec et vous pouvez en faire ce que vous voulez. Je crois que, autant pour le Mexique que pour le Canada et les États-Unis, il faut redéfinir ce que les droits de la propriété impliquent pour la nature, dit-il. Et cette idée que nous pouvons faire ce que nous voulons de cette ressource. En fait, les humains ont un devoir envers la nature qu'ils détiennent. Un pays pour tous. Le paysage est un concept relationnel. C'est cette relation entre l'individu et le territoire dans lequel il se trouve comme résident ou comme touriste, le définit le professeur Sylvain Paquette de l'Université de Montréal. Un même paysage peut être apprécié ou pas, précise-t-il. Un même paysage peut avoir une valeur patrimoniale pour un, alors qu'un autre va y voir une valeur environnementale. Un autre, une valeur plus d'attachement affectif. La preuve, dans certains villages de la Côte-Nord, les maisons font dos à la mer. On appelle le fleuve la mer là-bas, dit l'autrice Christina Gauthier-Landry, qui sent le besoin de préciser. Il y a un poème dans mon livre qui dit que les maisons boudent et tournent le dos à la mer. Ce poème est inspiré de la configuration de plusieurs villages sur la côte nord dont les maisons ne sont pas construites pour faire face au fleuve, mais pour faire face à la 138. On a un super beau panorama. Des plages de sable, des caps de roche, le fleuve tellement large que tu ne vois pas l'autre bord. Et certaines maisons font dos à ça, dit Christina Gauthier-Landry. C'est que certaines personnes lui préfèrent, parfois, la route qui annonce de la vie, l'espoir de la visite qui arrive, qui brise l'isolement. C'est un autre genre de paysage, dit la poète, un paysage humain. Cette fille de pêcheur de crabes est désormais installée en ville. Son livre et « Arrivée au bout, nous prendrons racine » ne porte pas sur les paysages. Pourtant, la côte nord de l'autrice y est bien là, très présente, mais en filigrane. « Le paysage s'est inséré à mon insu, dit-elle. Car ce n'est que ça, la côte nord. Un paysage, sans artifice. » C'était « À qui appartiennent les paysages ?» Un texte de Stéphanie Bérubé, paru le 4 juin 2023 dans La Presse.
Une molécule contre la malaria dans le petit thé du Labrador. Un texte de John Hammond, paru le 18 mai 2023 dans U Laval Nouvelle. Il est urgent d'étudier les plantes nordiques afin d'en répertorier la chimiodiversité, plaide le professeur Normand Voyer. Avant que les changements climatiques n'affecte davantage la flore nordique du Québec, il est important d'étudier à fond les espèces qui la composent afin d'en documenter la biodiversité, mais aussi la chimiodiversité. En effet, certaines de ces plantes, qui risquent d'être perdues à jamais en raison des perturbations climatiques, produisent des composés qui pourraient nous être très utiles, notamment en santé. C'est le cas du petit thé du Labrador, dont l'un des composés possède des propriétés contre la malaria, vient de démontrer dans la revue ACS Omega une équipe dirigée par le professeur Normand Voyer du département de chimie de l'Université Laval. Les chercheurs se sont associés au Wapmagoustwi, Cree Nation Council et au Kujwarapik Inuit Community Council pour étudier cette plante dont la limite sud de l'aire de répartition correspond à la latitude de ces deux communautés. Les feuilles et les racines du petit thé du Labrador, Rhododendron subarcticum, sont utilisées en médecine traditionnelle pour préparer des tisanes servant à soigner le rhume, la grippe, la congestion nasale, les maux de tête et les maux d'estomac. Il est probable que la composition chimique de la plante varie selon les conditions environnementales. Nos partenaires veulent en savoir plus sur cette espèce. Entre autres, quel est le meilleur moment de collecte pour en maximiser les bénéfices médicinaux, souligne le professeur Voyer. Lors des analyses en laboratoire, les chercheurs ont constaté que l'huile essentielle tirée des feuilles du petit thé du Labrador contenait 53 composés, dont le plus abondant, l'ascaridol, représente 65% du total. Ce composé est aussi présent chez d'autres espèces végétales utilisées dans différentes parties du monde contre les parasites qui affectent les plantes, les animaux et les humains. Les chercheurs ont donc eu l'idée de tester le potentiel de l'ascaridole extrait du petit thé du Labrador contre deux souches de Plasmodium falciparum, le parasite qui cause la forme la plus sévère de la malaria. L'une de ces souches était résistante à plusieurs médicaments utilisés pour traiter cette maladie. Résultat? L'ascaridole a une activité inhibitrice contre les deux souches du parasite, résume Normand Voyer. Ce serait bien si l'ascaridole pouvait constituer un nouveau traitement contre cette maladie qui cause plus de 600 000 décès par année dans le monde, poursuit le chercheur. Mais l'objectif premier de notre étude était d'apporter une nouvelle preuve de la riche chimiodiversité de la flore nordique et de l'urgence de l'étudier. Quand tu perds une espèce, tu perds aussi les substances qu'elle produit et qui pourraient fournir une solution à un problème de santé publique majeur comme la malaria. C'était une molécule contre la malaria dans le petit thé du Labrador, un texte de Yann Hamann, paru le 18 mai 2023 dans U Laval Nouvelle.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Claire Dorion et Gilbert Lepage. À la lecture, Francine Thériault et Diane Métayer. À la recherche, Nicolas Wartmann. À la présentation et au montage.